Bonjour et bienvenue dans cette émission du 23 octobre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur la question de savoir s'il existe un projet mondial de dépopulation dont la crise du Covid aurait été en quelque sorte la première opération à l'échelle mondiale opérée en ce sens. Évidemment que je suis totalement incapable de vous répondre à cette question. La seule réponse honnête de ma part est « je ne sais pas ». Mais ça tombe bien étant donné que mon travail n'est pas d'apporter des réponses. Mon travail est de proposer des perspectives sur des enjeux ou des faits de société complexes. Et en l'occurrence, j'avais très envie de vous parler d'une magnifique émission proposée par Idriss Aberkane sur le thème « Comment réduire la population mondiale ». Elle a été diffusée il y a quelque temps et Idriss, dont on connaît l'intelligence et la vastitude du savoir, part de cette question. La plupart des gens qui sont aux commandes aujourd'hui ou des figures importantes de l'establishment mondial ont exprimé à réitérées reprises qu'il fallait réduire drastiquement la population mondiale. Alors, il y a un espèce de chiffre fétiche à 500 millions d'habitants humains serait parfait pour la planète. On vient de dépasser la marque des 8 milliards, donc ça fait quand même un petit fossé entre les deux. Ailleurs, on entend que l'idéal serait 1,5 milliard, 1,8 milliard. Mais donc, si cette parole, cette profession de foi est énoncée de manière répétée par des élites qui sont au pouvoir, on peut effectivement se poser la question de savoir si jamais c'est juste une idée en l'air ou bien si jamais, éventuellement, il pourrait avoir des intentions un petit peu plus précises. Et en fait, Idriss se livre à un exercice absolument remarquable, passionnant et amusant qui consiste à dire « Ok, voilà ce qu'ils disent, voilà ce qu'ils affichent, voilà ce qu'ils souhaiteraient. Moi-même, je suis consultant international. Si ces gens devaient m'approcher en me demandant comment pourrions-nous faire pour passer de 8 milliards d'habitants à, mettons, 1,5 milliard, quelles seraient les ressources et les stratégies à disposition ?» Et donc, il se livre à un exercice, en quelque sorte, de fiction, de consultance. Mais évidemment, en mettant le doigt sur un ensemble de choses que l'on observe par ailleurs. Et évidemment que les deux seuls leviers que vous avez à disposition pour réduire drastiquement une population, c'est de veiller à ce qu'elle se reproduise de moins en moins, voire à éliminer un certain nombre de personnes. Et en tout cas, pour le premier volet, on sait qu'il y a un ensemble de phénomènes observables. Les taux de natalité ont chuté de manière régulière, alors en partie du fait de l'évolution sociétale, mais aussi de difficultés biologiques. La fécondité aujourd'hui est beaucoup moins élevée biologiquement qu'elle l'était il y a quelques décennies. Les taux de testostérone, par exemple, ont baissé chez l'homme comme résultat de toute une pollution environnementale. Il y a déjà quelque chose qui va dans cette direction. Alors pourquoi est-ce que la question se pose vraiment, sans qu'on puisse lui apporter de réponse? D'abord parce qu'il y a à l'évidence dans la philosophie transhumaniste des réminiscences extrêmement fortes de l'eugénisme, qui est donc cette philosophie qui voulait s'inspirer des moyens de la génétique pour optimiser la population humaine, et notamment pendant les pages les plus sombres de notre histoire, en éliminant des gens qui étaient considérés comme inférieurs pour des questions de race, d'orientation sexuelle ou de handicap, ou de stériliser un certain nombre de personnes relevant de ces différentes catégories pour être sûr qu'elles ne se reproduisent pas. Et le biologique Jacques Testard, qui a été le père du premier bébé éprouvette, avait fait une prise de position extrêmement ferme en ce sens il y a quelques années. Nous étions en 2018, alors l'Express faisait encore à peu près du journalisme à l'époque, et vous voyez, en affirmant le transhumanisme, qui est donc prégnant aujourd'hui au niveau de ceux qui ont le pouvoir. On appellerait les élites, mais ils sont tellement médiocres et malfaisants qu'on va éviter d'employer ce mot. Pour ceux qui souhaiteraient creuser la question, je vous renvoie au travail de l'excellent essayiste Pierre-Antoine Plaquevent, qui vient de consacrer un livre à cette question récemment, Globalisme et dépopulation, en sachant bien sûr que ça active tout un ensemble de fantasmes anxieux, notamment autour de la famille de Bill Gates, dont le père était un eugéniste notoire, et puis avec tout ce courant du planning familial, du contrôle des naissances, qui a quand même pris énormément de place dans nos sociétés, société avec cette pensée obsessionnelle de réduire le nombre de naissances. Alors il faut évidemment faire la part du fantasme, de la projection et du scénario délirant et du réel, mais en rappelant avec Patrick Thor, qui a écrit un livre du totalitarisme en Amérique, en montrant cette connivence entre Hitler et l'establishment anglo-saxon, que l'on connaît, la Maison Royale d'Angleterre avait des sympathies nazies, les grands chefs d'entreprise américains avaient des sympathies nazies, et toujours avec ce mélange d'eugénisme et de racisme, de management et de manipulation des masses propres au capitalisme dans lequel nous sommes. Alors Adam Cohen, un auteur dans son livre Imbeciles, avait montré comment plus de 70 000 Américains ont été stérilisés de force au cours du XXe siècle, et évidemment avec comme cible principale les déficients mentaux, les personnes atteintes de surdité, de handicap sensoriel, de malades, mais aussi des minorités raciales et socio-économiques. Tout récemment, Justin Trudeau vient d'annoncer son intention de légaliser l'euthanasie au Canada pour les personnes atteintes de diverses maladies mentales ou les toxicomanes, en disant qu'ils n'ont pas besoin de souffrir d'autre chose, mais si à 30 ans vous êtes toxicomane et vous considérez que votre vie n'en vaut pas la peine, nous serions tout à fait disposés à mettre à votre disposition de l'euthanasie. Alors il faut savoir déjà que cette question de surpopulation dans les faits ne se pose pas. Il n'y a pas du tout de surpopulation, même si évidemment la population humaine a énormément cru, surtout depuis le recul de la mortalité infantile. Mais on pourrait à l'heure actuelle rassembler toute la population mondiale dans l'équivalent de la ville de New York. Et oui, avec une densité équivalente à celle qu'on a dans des concerts, par exemple au Stade de France, eh bien, vous voyez, vous pourriez mettre toute l'Europe dans le Bronx, toute l'Amérique du Nord et centrale sur l'île de Manhattan, toute l'Inde, la Chine et le Japon dans le Queens, c'est quand même pas rien, l'Afrique et l'Amérique du Sud et l'Océanie dans Brooklyn, et toute l'Asie qui n'est pas dans le Queens sur Staten Island. Alors, si ça vous intéresse, il y a deux petites vidéos d'animation qui sont tout à fait intéressantes. Je vous donne les références ici, où vraiment, ça permet de visualiser ça, et en sachant de surcroît que, même s'il y a eu une très forte progression démographique, nous nous orientons désormais vers un monde dépeuplé. En 2050, on attend que 151 des 195 pays du monde, du globe, soient en décroissance démographique. Et puis, on rappelle bien sûr ce grand classique de la démographie, qui est que le taux de reproduction, donc le nombre d'enfants par femme, baisse avec l'augmentation du niveau d'éducation et du niveau socio-économique. Donc voilà, plus les gens sont éduqués et plus leur vie est confortable, moins ils font d'enfants. Donc, comme heureusement, on a passablement réduit la pauvreté au niveau mondial au cours des 20 dernières années, et malgré le coup d'arrêt du Covid qui a généré des effets catastrophiques sur la pauvreté au niveau mondial, a priori, les perspectives sont plutôt positives. Alors j'en reviens à l'émission d'Idriss Aberkane, qui, et vraiment je vous invite à la voir, parce que c'est un pur délice, et surtout ça montre toutes les questions qu'on est en droit de se poser par rapport à ce qui est en train d'arriver, et on sait malheureusement qu'il y a une surmortalité croissante dans tous nos pays, faisant suite au début d'une certaine campagne de « vous devinerez quoi », et que cela ne suscite aucun intérêt, alors même que l'on faisait paniquer la population avec un virus de type grippal qui n'était pas particulièrement dangereux. Donc on a fait paniquer pendant une année et demie, deux ans, les gens en disant « vous êtes en danger de mort, oulala, oulala », et quand il y a effectivement un signal extrêmement inquiétant de surmortalité, là, ça n'intéresse plus personne. Et donc, Idriss aborde, sujet par sujet, tout ce qui, s'il était dans la position d'être mandaté pour assumer une réduction rapide de la population, il pourrait être tenté de considérer. Mais l'exercice a un autre intérêt, qui est que nous sommes entrés depuis quelques années dans un régime de censure extrêmement appuyé, et cela implique que nous développions des ressources langagières propres à ce contexte. On ne parle pas dans un état de droit qui garantit la liberté d'expression et d'opinion sans que vous subissiez de rétorsion quant à ce que vous pourriez dire, et un système qui a basculé dans une logique totalitaire telle que c'est le cas aujourd'hui. Et l'exercice d'Idriss Aberkane est extrêmement intéressant de ce point de vue-là. parce qu'on ne peut absolument pas le coincer en lui disant « vous pensez que ». Mais en même temps, il met sur la table toutes les hypothèses en concluant avec beaucoup d'humour et d'ironie en disant « heureusement, rien de tout cela n'existe ». Mais bon, ça c'est le point d'interrogation pour tous ceux qui auront suivi ces raisonnements. Alors je rappelle que, en contexte totalitaire, nous devons adapter nos modalités de langage, et puisque ce que nous disons ouvertement peut être contré ou nous valoir précisément des mesures de rétorsion, eh bien nous devons apprendre à dire les choses à demi-mot, de manière poétique, par allusion ou par l'humour. Et Philippe Bobola, scientifique à bien des égards, avait attiré mon attention sur le fait que Octavio Paz et Cornelius Castoriadis s'étaient intéressés à cette question en montrant que la poésie et le langage de la résistance au totalitarisme. On peut évidemment envoyer aussi à André Suarez, et notamment ce très intéressant ouvrage, Contre le totalitarisme, le courage de l'esprit, et où on voit tout le jeu poétique, c'est-à-dire qu'à la fois il développe une pensée extrêmement rigoureuse et analytique, mais en même temps avec des expressions très très, très vivantes, très colorées, très, très poétiques, oui, je ne sais pas comment le dire autrement. Et puis pour ceux que cela intéresse, je vous renvoie encore à ce très beau travail de recherche en master à l'Université du Québec à Montréal il y a quelques années par un dénommé Min Quang Nguyen qui porte sur le totalitarisme ou le meurtre du langage. L'auteur est actuellement chargé de cours à l'Université du Québec en Outaouais. Et voilà. Ça permet vraiment de nous aguerrir dans la manière d'utiliser le langage pour être le plus percutant possible. Je terminerai, effectivement, l'idéologie transhumaniste et eugéniste part du principe que finalement, à cause du réchauffement climatique, à cause de ceci, cela, il vaut mieux ne plus faire d'enfants, que ça n'est pas écologique de faire des enfants. Et la sinistrose aujourd'hui est telle que de nombreuses femmes et de nombreux hommes renoncent même à la perspective d'avoir des enfants, en disant « nous ne voulons pas faire naître des enfants dans un monde tel qu'il est aujourd'hui ». Et donc, pour terminer, je vous suggère de prendre connaissance de ce magnifique article d'Amel Debé dans l'Impertinent Média, c'est vraiment un média qu'il vaut la peine de suivre, avec le capitaine Paul Watson, qui a été un des premiers activistes de la protection des mers et des océans, avec Sea Shepherd, et où il aborde cette question en disant « ceux qui ne font pas d'enfants pour des raisons écolos sont justement ceux qui devraient en faire », avec une réflexion pertinente et intéressante par rapport à la vie et par rapport à la réalité de ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui. À demain. Merci.